RFI, 13h à Paris, il est midi en temps universel.
RFI midi.
Lors d'un nouveau journal avec vous, Florent Guignard. Bonjour Florent.
Bonjour Nemo, bonjour à toutes et à tous. À la une, cette question, un cessez-le-feu est-il imminent au Liban? Le cabinet de sécurité israélien se réunit cet après-midi pour approuver la trêve défendue par les États-Unis. Tous aux abris, le fond de l'air est militaire et en Allemagne, le gouvernement lance une opération de recensement de ses abris et autres bunkers en cas de bombardement. La justice américaine baisse les bras face à Donald Trump. Les poursuites sont abandonnées contre le président élu et immunisé. La Pologne, à son tour, s'oppose au traité de libre-échange entre l'Europe et les pays du Mercosur, alors qu'en France, les agriculteurs poursuivent leur mobilisation. Et puis l'honneur est sauf. C'est un chef cuisinier français, Guy Savoy, qui obtient le titre de meilleur restaurant du monde, ex aequo quand même avec 8 autres chefs.
RFI à Paris, 89 FM.
Le Liban, donc, dans l'attente d'une réunion cet après-midi du cabinet de sécurité israélien.
Réuni autour du Premier ministre Benjamin Netanyahou, il doit décider d'accepter ou pas le plan de trêve entre Israël et le Liban. Un plan qui pourrait bien être accepté après 2 mois de guerre d'Israël contre le Hezbollah, si l'on en croit les dernières déclarations. Les États-Unis ont fait part de leur optimisme. Et puis, tout à l'heure, le ministre israélien de la Défense a fait cette déclaration. Il assure que son pays agira avec force en cas de violation de la trêve. Les armes, donc, doivent normalement se taire au Liban, en Israël, mais aussi à Gaza, de manière permanente. C'est une déclaration ce matin du porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, Jérémy Lawrence.
Le seul moyen de mettre fin aux souffrances des peuples de tous les côtés est un cessez-le-feu permanent et immédiat sur tous les fronts, au Liban, en Israël et à Gaza. L'action militaire israélienne au Liban a causé des pertes massives en vie civile, y compris le meurtre de familles entières, des déplacements massifs et la destruction d'infrastructures civiles, ce qui soulève de sérieuses préoccupations quant au respect des principes de proportionnalité, de distinction et de nécessité. Le groupe armé libanais, le Hezbollah, a également continué à tirer des roquettes sur le nord d'Israël, ce qui a causé des pertes civiles. La plupart de ces roquettes sont de nature aveugle et prolongent le déplacement de nombreux civils israéliens, ce qui est inacceptable.
Le porte-parole du haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Ce matin aussi, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a mis la pression sur le gouvernement israélien. Israël, dit-il, n'a pas d'excuse pour refuser un cessez-le-feu. Mais en attendant, et jusqu'au bout, l'armée israélienne bombarde le Liban avec de nouvelles frappes ce matin sur la banlieue sud de Beyrouth. Le fief du Hezbollah, l'armée israélienne avait appelé à l'évacuation de 3 immeubles. L'armée israélienne, elle frappe aussi encore et toujours dans la bande de Gaza, avec de nouvelles victimes palestiniennes. 11 morts cette nuit et ce matin, selon la défense civile palestinienne.
Florent, des frappes russes également sur l'Ukraine.
188 drones de combat lancés par l'armée russe sur tout le territoire ukrainien. C'est un record, selon Kiev. Des immeubles d'habitation et des infrastructures essentielles ont été touchés. Record aussi des gains territoriaux de la Russie en Ukraine, avec 235 km carrés conquis la semaine dernière selon des analystes. Et c'est dans ce contexte, marqué aussi par les menaces très directes de Vladimir Poutine, menaces nucléaires sur l'Europe, qu'a lieu aujourd'hui à Bruxelles au siège de l'OTAN une réunion des ambassadeurs de l'Alliance Atlantique avec des représentants de l'Ukraine. Et ces menaces de Vladimir Poutine, elles sont prises très au sérieux par l'Allemagne, qui annonce un plan de recensement de tous les abris que pourrait utiliser la population civile en cas de bombardement. Les vieux bunkers de l'Allemagne nazie vont être réhabilités à Berlin. Pascal Thibault.
Musée club techno, tout simplement, ruine à l'abandon. Les nombreux bunkers allemands du Troisième Reich, construits pour la protection des civils contre les bombardements alliés, comme ceux conservés ou développés durant la guerre froide, ont été recyclés, détruits ou abandonnés. Ceux qui existaient encore ne sont plus entretenus depuis 2007. 300 ont été vendus. Aujourd'hui, il en reste un peu moins de 600 contre 2000 dans le passé. L'Allemagne a arrêté ce démantèlement en 2022 avec le début de la guerre en Ukraine et fait depuis machine arrière. Le quotidien populaire Bild Zeitung a qualifié le plan lancé au printemps d'offensive bunker, un plan évoqué hier par le porte-parole du ministère de l'Intérieur.
Nous voulons recenser de façon systématique les bâtiments privés ou publics qui peuvent servir d'abri. Une liste numérique de tous ces lieux doit être disponible et une campagne doit informer sur l'importance de ces abris et des mesures qu'ils peuvent eux-mêmes prendre.
Caves, garages, stations de métro doivent être recensées et comme construire des bunkers coûte cher et prend du temps, les infrastructures existantes doivent être utilisées. Les particuliers seront encouragés à ménager leur cave ou leur garage. Quand la liste de ces lieux sera établie, elle pourrait être disponible sur une application pour téléphone portable. Pascal Thibault, Berlin RFI.
L'Ukraine et les États-Unis pris pour cible lors du sommet qui se tient au Cambodge contre les mines antipersonnelles.
Une centaine de personnes ont manifesté contre la décision des États-Unis d'envoyer des mines à l'armée ukrainienne. L'Ukraine dit d'ailleurs qu'elle ne respectera pas son engagement de détruire un stock de 6 millions de mines héritées de la période soviétique. Kiev accuse aussi la Russie d'utiliser des mines en ce moment en Ukraine et parle d'activités génocidaires.
Un autre sommet se tient en Asie, Florent, celui contre la pollution plastique, c'est en Corée du Sud.
Et en première ligne contre les déchets plastiques, comme elles sont déjà en première ligne contre le réchauffement climatique et la montée des océans, les petites îles alertent sur les dégâts causés par le plastique. Envoyé spécial à Busan où se tient ce sommet, c'est Lio Fioretti.
Le plastique, une menace existentielle pour les archipels du Pacifique. Tekao Frère fait partie de la délégation de ces îles à cette conférence internationale. Elle nous explique les conséquences de cette pollution.
Un des enjeux urgents et que l'on voit davantage, c'est bien entendu la pollution plastique qui est déjà dans les océans. Donc pour des pays comme toutes les îles du Pacifique, en fait, les plages sont polluées, les pêcheries aussi sont potentiellement infectées, les récifs coralliens. Donc il y a cet impact environnemental, il y a aussi le coût qui va avec. Lorsque ces déchets arrivent sur les plages, ben ce sont les pays qui doivent s'en charger. Donc c'est un coût assez significatif pour des petits États en voie de développement.
En première ligne, face à cette pollution qui détruit leur environnement et leurs ressources, les différents États du Pacifique espèrent un traité fort contre le plastique.
Les États du Pacifique savent que pour pouvoir bien résoudre ce problème, il faut fermer le robinet. Et donc c'est pour ça qu'ils ont une position assez ferme sur la réduction de la production plastique en général.
Ils ont jusqu'au 1er décembre pour convaincre le reste du monde de réduire leur production de plastique. Célio Fioretti, Busan, RFI.
À Busan, il est 21h passé de 8 minutes. On reste dans la région, dans le détroit de Taïwan, avec de nouvelles tensions militaires.
La Chine a annoncé avoir déployé des forces aériennes et navales pour surveiller un avion militaire américain qui a survolé ce détroit de Taïwan.
Des nouvelles de Donald Trump, à un mois et demi de son retour maintenant à la Maison-Blanche.
Et de très bonnes nouvelles, même pour le président élu qui peut crier une nouvelle fois victoire. Le procureur spécial chargé d'enquêter sur l'attaque du Capitole le 6 janvier 2020, quand Donald Trump contestait sa défaite. Ce procureur chargé aussi d'enquêter sur la détention de documents secrets défense au domicile de Donald Trump, il abandonne toutes les poursuites en raison de l'immunité présidentielle accordée par la Cour suprême. Carlotta Morteo, cette affaire, elle soulève beaucoup de questions sur la solidité de la démocratie américaine.
Oui, car cet abandon des poursuites pénales s'appuie sur une décision rendue au mois de juillet par les juges de la Cour suprême, majoritairement affiliés au camp républicain, qui ont statué sur le fait que la Constitution accorde implicitement au président une immunité pour, je cite, ses actes officiels. Le problème soulevé par de nombreux juristes relayés dans la presse aujourd'hui, c'est que cette décision a été rédigée de manière très ambiguë et qu'elle laisse la porte ouverte à de nombreuses interprétations. La diffusion de mensonges sur la fraude électorale, par exemple, relève-t-elle de la conduite officielle ou non officielle d'un président ? Le fait de mettre la pression sur son vice-président pour qu'il abuse de son rôle, est-ce pénalement répréhensible ? Et que dire des subordonnés qui utilisent des moyens illégaux pour répondre à des instructions présidentielles ? présidentielle. Bénéficient-ils eux aussi de l'immunité ou risquent-ils d'être poursuivis pour avoir obéi à leur patron? Ces questions étaient sur le point d'être renvoyées devant la Cour suprême pour qu'elle clarifie l'étendue de l'immunité, car l'arrêt tel qu'il est écrit aujourd'hui ouvrirait la voie à des abus de pouvoir inédits dans l'histoire des États-Unis.
Précision Carlotta Morteo. Donald Trump qui, par ailleurs, tient ses promesses et prépare les États-Unis à une guerre commerciale.
Et oui, il a confirmé hier ses premières mesures économiques après son retour à la Maison-Blanche, l'augmentation des droits de douane pour les produits importés du Canada, du Mexique et de la Chine, les trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis. La Chine a réagi. Personne ne gagne une guerre commerciale.
Des tensions toujours autour du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur.
Alors vous le savez sans doute, la France est en pointe pour s'opposer à cet accord commercial entre l'Europe d'un côté et le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay de l'autre côté. La France, elle vient de recevoir le soutien de la Pologne. Déclaration tout à l'heure du Premier ministre Donald Tusk qui refuse en l'état ce traité de libre-échange. Ce traité, il sera débattu cet après-midi en France à l'Assemblée nationale. Il fait aussi l'objet d'une très vive contestation de la part des agriculteurs français qui poursuivent leur mobilisation. Et on retrouve tout de suite Anne Verdaguet à Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, c'est au sud de Paris. Anne, vous êtes devant un dépôt de marchandises où une quinzaine d'agriculteurs ont stationné leur tracteur. Ils effectuent un barrage filtrant.
Oui, ils ont dormi ici la nuit dernière. Certains viennent d'aussi loin que le Loiret. Ils arrêtent les camions qui viennent charger et décharger les marchandises pour contrôler la provenance des denrées alimentaires. Il s'agit du plus grand dépôt Carrefour du département qui fournit toute la région parisienne. Ces exploitants, pour la plupart céréaliers, à la tête de grosses exploitations, n'ont qu'un mot à la bouche, la concurrence déloyale que l'accord avec le Mercosur leur apporterait. Olivier Poisson, exploitant agricole dans le sud de l'Essonne.
Par rapport au Mercosur, ils vont avoir le droit, si ce traité passe, d'apporter des marchandises qui n'ont pas les mêmes normes de qualité que les nôtres, à des prix inférieurs forcément, donc viennent en concurrence avec nos productions et nous on pourra plus vendre nos productions tout bêtement. Ça aura un impact direct sur la rentabilité des exploitations agricoles. Ouais. Alors ils ont l'air de nous soutenir, on a rencontré des personnes, on sent bien qu'il y a des gens derrière nous, après aujourd'hui on s'attend à tout quoi. Au niveau européen, si les affaires passent, de toute façon, nous, on suivra, on n'aura pas le choix. Donc oui, si au niveau national, ils sont contre, c'est une chose, mais la guerre n'est pas finie.
Voilà, des agriculteurs, vous l'avez entendu, désabusés quant à l'issue du vote aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Tout se décide au niveau européen. Ils disent avoir déjà tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. On ne crèvera pas en silence et on ira jusqu'au bout, m'a confié l'un d'entre eux.
Anne Verdaguet, envoyé spécial de RFI à Fleury-Mérogis dans l'Essonne, Florent.
Et dans l'actualité française encore, Nemo a signalé la mort d'André Lajoigny, ancien candidat du parti communiste. C'était à la présidentielle de 1988, remportée par François Mitterrand. Il avait obtenu un peu plus de 6%. Il y a aussi un certain nombre de procès qui ont lieu en France aujourd'hui, et notamment le procès de ce qu'on appelle l'affaire Pogba, si proche du footballeur Paul Pogba, dont son frère, qui sont jugés pour avoir tenté d'extorquer quelques 13 millions d'euros aux footballeurs. C'était en 2022.
13h13 ici à Paris. Cette question, Florent, comment échapper au service militaire en Corée?
En prenant du poids, beaucoup de poids. C'est en tout cas ce que croyait un jeune homme de 26 ans qui a pris plus de 20 kilos en doublant sa consommation de nourriture. Il pensait ainsi échapper au service militaire actif pour éviter les entraînements à marche forcée, se voir cantonné à des tâches administratives. Eh bien, cette stratégie n'a pas fait le poids face à la hiérarchie militaire. Malgré ses 105 kilos pour 1m69, le jeune appelé a été condamné à un an de prison avec sursis.
Et après la malbouffe, place à la gastronomie.
Avec le classement des meilleurs chefs cuisiniers établi par la liste qui suit 35 000 restaurants dans 200 pays et qui les classe en fonction des algorithmes, et bien pour la 8e année consécutive, c'est un Français qui se classe en tête ex aequo. Il s'agit de Guy Savoy et son restaurant à la Monnaie de Paris, Elisabeth Le Quéré.
Guy Savoy serait donc le meilleur chef du monde, ex aequo avec 9 restaurants américains, japonais et chinois. Preuve que la gastronomie reste un précaré bien français, 7 tables de l'Hexagone sont présentes dans le top 25, notamment le Louis XV d'Alain Ducasse ou encore l'Auberge des Cimes de Régis et Jacques Marcon. S'il y a une certaine stabilité du classement chez les Européens et les Nord-Américains, l'Asie se taille désormais une place de choix. Témoin, ce restaurant hongkongais, Lung Kin Hin, ex aequo en première place du classement avec Guy Savoy, ou encore cette montée en puissance notable de la Corée avec ses deux restaurants de Séoul, ex aequo à la 8e place. Quant au Japon, depuis longtemps réputé pour sa cuisine, il reste le pays le plus représenté dans le classement de la liste avec 126 restaurants.
Allez, mon appétit, 13h15 à Paris, RFI Midi continue avec vous, Memo en piste.
C'était le journal de Florent Guignard, 13h15 à Paris, oui, l'heure de passer au sport. C'est avec vous, Olivier Pron, bonjour.
Bonjour Nemo, on passe pas à table donc.
Pas encore, je vais patienter un petit peu de temps. Et au programme, au menu de ce journal des sports, rien que du football avec la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions et deux équipes françaises concernées, notamment le Paris Saint-Germain et Brest.
Ouais, 5e journée, début de la 2e moitié de cette phase à poule unique. 24 de ces 36 équipes poursuivront l'aventure fin janvier. C'est très bien engagé pour Brest. Révélation d'une compétition que les Bretons découvrent. 3 victoires et 1 nul jusqu'ici. Les hommes d'Éric Roy sont 4e et pratiquement assurés d'être au moins barragistes en février. Ça tombe bien avant de se frotter ce soir au Barça. À Barcelone, le plus gros adversaire carrément de l'histoire du club. Les deux formations qui se tiennent en un point au classement abordent cette rencontre sans leur maître à jouer. Lamine Yamal en fin de convalescence côté espagnol et Pierre Lesmelou touché au genou vendredi. Malgré cette absence, l'entraîneur de Brest, Éric Roy, espère s'inspirer de son dernier adversaire en Ligue 1, l'AS Monaco.
On a joué contre Monaco il y a 4 jours, qui est une équipe qui a battu cette équipe du FC Barcelone. Alors c'est vrai avec... C'est le match qui a fait qu'ils sont restés en supériorité numérique longtemps dans le match, donc ce qui a certainement aidé. Mais c'est la preuve qu'en foot tout est possible et que même pour nous, même si ça paraît quelque chose d'assez, pratiquement nul sur le papier, on essaiera de jouer notre chance à fond.
Éric Roy, donc en direct de son garage.
Et côté Barcelone, Olivier, extrême méfiance.
Oui, le parcours des Brestois n'a pas échappé aux Catalans, très prudents dans leur discours de veille de match, à l'image du défenseur Inigo Martinez.
Bueno, creo que están haciendo una...
Je trouve qu'ils font un excellent travail. Ce n'est pas par hasard s'ils n'ont pas perdu le moindre match. Si nous leur manquons un minimum de respect, nous le payerons cher, sans aucun doute. C'est une équipe bien construite, ils savent comment contre-attaquer, physiquement ils sont costauds. Ce sera un bon match qu'il faudra gagner pour faire oublier nos deux sorties précédentes en Liga, qui n'étaient pas très bonnes.
Discours policé, décor planté, FC Barcelone-Brest, coup d'envoi 20h TU.
Comme un autre choix. Qui concerne une autre équipe française, le Paris Saint-Germain.
Sur la pelouse du Bayern Munich, un match très important pour les Parisiens, Nemo. Des Parisiens qui pour l'instant n'ont que 4 points, eux, en 4 matchs, 25e sur 36. Ils sont virtuellement éliminés à mi-parcours. Il leur faut donc un bon résultat à l'Allianz Arena, avec les retours de l'attaquant portugais Gonçalo Ramos et du défenseur Presnel Kimpembe. En face, les Bavarois, eux, sont en forme. Depuis leur déroute face au Barça il y a un mois, ils ont remporté leurs 6 derniers matchs, 0 but encaissé. Mais le milieu de terrain Vitinha, bien sûr, pense pouvoir rivaliser au micro de Cédric De Oliveira.
On sait qu'on va affronter une très très belle équipe avec de grands joueurs de classe mondiale. Ça fait pas mal de matchs qu'ils n'ont pas encaissé de but, je pense. On sait bien quelle équipe on a en face. Nous, on va essayer de le contrarier. On va étudier bien le plan de jeu. On va parler avec le coach. Et nous, si on suit le plan du coach et on dose tout ce qu'on a, on va sortir d'ici avec un résultat très positif.
Vitinha, donc fan du groupe de rock Téléphone et qui reprend parler dans l'Igiaphone. Bayern Munich PSG, coup d'envoi 20h TU comme Sporting Lisbonne Arsenal ou encore Manchester City Feyenoord.
Les rendez-vous sont pris, Olivier Pron. Merci Olivier pour ce journal des sports.
RFI Midi, le monde à la mi-journée.
13h18 ici à Paris. On vous en parle depuis hier sur la radio du Monde. Le président américain élu Donald Trump a annoncé vouloir augmenter les droits de douane pour plusieurs pays. Pour en parler ce midi, nous sommes en ligne avec Elvire Fabry. Bonjour Elvire.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors, en charge de la géopolitique du commerce et rapporteur du groupe de travail sur les relations Union européenne-Chine. Pas encore à la Maison-Blanche, mais déjà des premières annonces après avoir nommé l'ensemble de sa future équipe. Donald Trump a évoqué l'une de ses premières volontés hier donc, l'un des décrets prioritaires, fracassant certes, mais attendu, augmenter les droits de douane sur les produits venant de Chine, mais aussi du Mexique et du Canada, une décision que le président élu justifie entre autres par les crises liées aux opiacés et à l'immigration. Elvire Fabrice, sur la Chine d'abord, Donald Trump, lors de son premier mandat, on s'en souvient, avait déjà déployé des mesures douanières. Elles n'ont pas été levées par son successeur, Joe Biden. Pékin avait elle-même répliqué par des droits de douane plus élevés pour le secteur agricole américain notamment. Quelle peut être l'attitude de la Chine face à cette nouvelle annonce ?
L'attitude de la Chine, ça va être d'abord d'essayer de négocier à nouveau, comme ça avait été le cas en 2020, avec un accord qu'on avait appelé le Phase One Deal, où la Chine s'était engagée à importer plus de biens américains, notamment des biens agricoles. On le sait, la priorité, l'obsession de Donald Trump, c'est de rééquilibrer la balance commerciale américaine. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça peut suffire ? Les annonces qui ont déjà été faites par Donald Trump pendant sa campagne parlent quand même d'un mur de droits de douane. Donc on est beaucoup plus même dans une phase de découplage, beaucoup plus brutale et qui toucherait de manière très large tous les biens de consommation qui sont importés de Chine aux États-Unis. Il va sans doute falloir que la Chine aussi puisse faire des concessions sur sa monnaie, sur la façon dont elle contrôle sa monnaie.
Mais justement, peut-on découpler les relations économiques entre l'Asie et l'Amérique du Nord, notamment donc entre Pékin et Washington, et quelles pourraient être les conséquences concrètes de ces nouvelles augmentations ?
L'impact immédiat, il va d'abord se porter sur le consommateur américain, parce que ça veut dire que le consommateur qui dépend énormément de ses biens de consommation chinois au quotidien va sentir le coût. Donc c'est d'abord une inflation plus élevée pour le consommateur. Pour certains producteurs américains de matières premières, cela peut les intéresser, comme ça avait été le cas pour l'acier et l'aluminium. Mais ensuite, il y a toute l'industrie qui utilise ces matières premières et qui va payer un coût additionnel par rapport aux produits, aux matières premières qu'elle importait de Chine. Donc, les estimations qui sont faites déjà, et en particulier par un centre d'économie en France, le CEPI, montrent que ceux qui vont en souffrir le plus seront les États-Unis et la Chine eux-mêmes. Mais maintenant, il faut ajouter à cela les annonces qui ont été faites de droits de douane augmentés sur le Mexique et le Canada, puisqu'on sait que le Mexique était devenu la plaque arrière tournante d'importation qui arrivait aux États-Unis venant de Chine.
Vous en parlez, le Canada et le Mexique également concernés. On sait que tous les deux sont liés à Washington par un traité de libre-échange. Donald Trump a évoqué une augmentation de 25% pour les produits venant de ces pays. Ce traité de libre-échange, vieux de 30 ans, renégocié en 2016 au début du premier mandat de Donald Trump et qui doit donc faire l'objet d'une renégociation, c'est bien cela, en 2026, encore une fois sous Donald Trump.
Les règles de cet accord imposaient de réviser l'accord en 2026. C'était une clause de révision en 2026. Ce que l'on voit, c'est que Donald Trump n'attendra pas 2026. Son obsession, c'est de arrêter l'immigration illégale qui vient du Mexique, donc également l'entrée de produits chinois qui viennent du Mexique, alors que la Chine elle-même est en train de renforcer ses projets d'investissement au Mexique. La balance commerciale américaine avec le Mexique est devenue de plus en plus déficitaire ces dernières années. Donc c'est un alignement d'objectifs qui pousse aujourd'hui Donald Trump, dès 2025, à se passer des engagements réglementaires et à appliquer les droits de douane qu'il souhaite appliquer.
Et de ce côté, le Canada a rappelé ce matin qu'il était indispensable au secteur énergétique de l'Amérique du Nord et donc des États-Unis. Quels peuvent être les arguments d'Ottawa pour espérer ne pas être concerné par de telles augmentations ?
C'est une bonne approche parce que on sait que une autre priorité de Donald Trump est vraiment de mettre l'accent sur toute l'industrie de l'énergie aux États-Unis, c'est-à-dire renforcer l'exploration et l'extraction de pétrole, de gaz. Donc ça, en tout cas, qu'il y ait mettre en avant cet argument de la dépendance énergétique serait très important.
Dernière petite question, très rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, Elvire Fabrice. Cette annonce de Donald Trump peut-elle faire craindre la relance d'une guerre commerciale mondiale ?
On y est. On n'a plus à la craindre. Il s'agit non seulement de se préparer, et là pour les Européens, ça veut dire vraiment assurer la cohésion des 27, mais on y est. On était suffisamment avisés par les annonces, les déclarations de campagne. Maintenant, on voit que cette initiative prise en particulier sur le Mexique et le Canada montre que les plus proches alliés ne seront pas épargnés.
Merci Elvire Fabry. Je rappelle que vous êtes chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors en charge de la géopolitique du commerce et rapporteur du groupe de travail sur les relations entre l'Union européenne et la Chine.
RFI Midi.
Nemo en Peace.
C'est une série inédite que l'on vous propose sur RFI depuis hier. 19 mois après le début de la guerre au Soudan, notre ancien correspondant sur place a pu retourner sur les lieux du conflit. Et l'un des principaux fléaux de la guerre, c'est la faim. La moitié des 45 millions d'habitants sont en situation de sous-nutrition aiguë et parmi eux, 8 millions en état critique. Les deux camps, celui du général Emeti et celui du général Al-Bourhan, sont accusés d'utiliser la faim comme arme de guerre. Ajoutez à cela une aide humanitaire largement sous-financée, faisant de cette crise une crise oubliée par la communauté internationale. Pour la suite de cette série, Elliot Brachet s'est rendu à l'hôpital Al-Shouada de Bari, dans la banlieue nord de Khartoum, tout juste reprise par l'armée. Là-bas, une autre bataille se joue désormais et elle fait plus de morts que la guerre. Reportage.
Devant les portes du service de nutrition, Salwa Zakaria erre, le regard dans le vide.
Mes deux filles sont mortes de faim. La première de 12 ans, il y a 4 mois. La seconde, d'un an et demi, est morte il y a une semaine. Nous n'avons rien à manger.
Dans le cabinet de Fatima Haroun, des bébés rachitiques se succèdent sur la balance.
Rien qu'au mois de septembre, nous avons enregistré 20 décès d'enfants de moins de 5 ans. Avant-hier, un bébé est mort ici. Nous n'avons rien pu faire. Nous sommes face à une famine de niveau 1, mais personne ne se rend compte de la gravité des cas que nous recevons ici. J'ai reçu une famille qui, lorsqu'ils n'ont rien à manger, dilue du limon du Nil dans une assiette.
Des silhouettes fantomatiques patientent dans le hall de l'hôpital. Un jeune garçon, Fayad, la peau sur les os, est entre les mains du docteur Imad.
Quand je l'ai reçu aux urgences, il était déshydraté, en hypotension. Il manquait de sucre, d'eau, de tout. Fayad, est-ce que tu arrives à parler ?
Pas de réponse. Les lèvres du garçon remuent à peine. Ceux qui parviennent à fuir les zones cernées par les combats arrivent dans des états critiques. Aza Hussein vient de quitter le quartier de Samarab, à 1 kilomètre d'ici.
Il n'y avait pas de nourriture. Les marchés sont vides. Les gens meurent ici et là. Dans notre quartier, il y a eu 150 morts en 2 semaines. Mes voisins, par exemple, ils sont morts de dysenterie foudroyante et d'autres à cause de l'eau du puits. Et aussi, il y a la dengue. Les enterrements s'enchaînent à la va-vite pour ne pas que les corps répandent les maladies.
En plus de la dengue, la malaria et le choléra se répandent. En temps normal, ces maladies ne tuent pas si elles sont prises en charge, mais la faim en fait des fléaux, selon la directrice de l'hôpital, Hadil El Hassan.
Ce n'est pas une question de pénurie de médicaments. Ces décès s'expliquent car les défenses immunitaires des gens sont au plus bas. Avec la guerre, toutes les usines, les marchés ont été détruits ou pillés. Les citoyens sont assiégés, ils n'ont pas accès à la nourriture et on ne peut pas leur en envoyer. Il faut que des corridors humanitaires soient ouverts, notamment vers les zones contrôlées par les forces de soutien rapide. Dans ce chaos, il est impossible de donner des chiffres précis, mais les morts à cause de la faim sont innombrables. Ils sont les résidus de la guerre.
Alors que la faim risque de tuer plus que la guerre, l'aide humanitaire reste sous-financée. Elle est distribuée au compte-gouttes. Ici, les Soudanais se sentent abandonnés. Elliot Brachet, Khartoum, RFI.
Série de reportages sur 19 mois de guerre au Soudan entre les généraux Al-Bourhan et Emeti, signé Elliot Brachet, a retrouvé ces reportages et tous ces sujets sur l'ensemble des plateformes d'écoute de Radio France Internationale. 13h28 ici à Paris, justement dans deux petites minutes, le retour de l'actualité africaine avec l'Afrique Midi, présenté par Nicolas Sur. Il sera 12h30 à Dakar.
RFI à Maputo, 105 FM. Que du bonheur en son et RFI Talent présente Candy Guerra. Découvrez le remix du titre Talent Loge de la voix d'or du Faso avec le DJ français Hors d'œuvre. Disponible sur toutes les plateformes.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain,
autopsie du monde enseignant en France, 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty.
Jeudi,
prévenir, alerter, secourir, comment adapter les villes face aux risques d'inondation.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.